10h-11h, et puis c'est tout sur RCN, avec la communauté de pratique Épilepsie Handicap Nord-Est.
Et bonjour, bienvenue sur RCN en direct pour l'émission Épi c'est tout, l'émission qui chaque mois est consacrée à l'épilepsie. Pour m'accompagner aujourd'hui, aux épilepsies d'ailleurs, je vais me reprendre aux épilepsies et on va en reparler très longuement dans cette émission. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver des équipes d'épilepsie, équipe relais handicap rare, je vais y arriver. Aurore et Audrey, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Nos invités du jour, Alexandra, bonjour Alexandra.
Bonjour.
Vous êtes ergothérapeute à la MAS, maison d'accueil spécialisée. Et vous êtes notamment spécialisé sur l'épilepsie. On reparlera avec vous évidemment du sport dans l'épilepsie. Vous accompagnez également Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Vous êtes vous éducateur à la MAS et on en reparlera. Vous nous expliquerez vos métiers tout à l'heure. Avec nous également Aline. Bonjour Aline.
Bonjour.
Vous êtes prof de yoga.
Oui.
Vous intervenez dans plein d'endroits à Nancy et vous êtes également épileptique.
Oui.
On en reparlera évidemment. Et puis avec nous au téléphone, nous avons Axel Lyon. Bonjour Axel Lyon.
Bonjour.
Vous êtes doctorant et ingénieur de recherche à l'Institut LATEP, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et vous avez écrit un livre dont on va reparler qui s'appelle Épilepsie et activité physique, une pratique adaptée pour tous en grand format aux éditions Autrement. Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du sport et des épilepsies. Mais si vous le voulez bien, pour démarrer cette émission, je voudrais avoir un petit message pour Yanis et sa famille plus particulièrement. Yanis était avec nous ici il y a un mois. Il nous témoignait de ce qu'était la vie de quelqu'un qui souffre d'épilepsie. Et notamment, il nous racontait pourquoi les crises d'épilepsie peuvent faire peur et comment on peut faire pour essayer de rendre la crise d'épilepsie peut-être moins flippante pour les gens qui l'encadrent et qui l'entourent. On a appris malheureusement quelques jours après l'émission le départ de Yanis. Voilà, je voulais le saluer toute sa famille qui a été très courageuse et qui nous écrit de jolis messages. On les embrasse fort, on pense fort à eux, on pense fort à sa sœur aussi puisqu'il avait une sœur jumelle qui avait choisi toutes les musiques de l'émission. Donc voilà, vous l'aurez compris, un petit peu d'émotion pour ce troisième numéro de Épi c'est tout. Comme d'habitude, pour lancer le sujet du jour, on va parler donc du sport et de l'épilepsie et des épilepsies. On est allé interroger des gens dans la rue, Aurore.
Oui.
C'est toi qui t'y es collée.
Exact.
Voilà, pour savoir un petit peu ce que les gens pensaient de la pratique du sport pour les personnes souffrant d'épilepsie, c'est bien ça ?
Oui, voilà.
Eh bien, on écoute ce micro-trottoir et on réagira tous ensemble après dans quelques instants.
C'est une personne qui était relativement jeune, qui avait moins de 30 ans, qui exerçait la profession de cantatrice, voilà, et qui était assez sportive, elle faisait de la danse, voilà. Sur le plan physique, c'était quelqu'un qui est en très bonne forme. Alors, le lien entre son activité physique, effectivement, ses entraînements de danse, etc., et puis ses manifestations, il n'était pas du tout établi, même pas conscient, quoi. Peut-être y avait-il des liens, mais on n'était absolument pas conscient de ça. Je suis scientifique de profession, donc je me réfère aux faits, qu'est-ce qu'on voit ? D'un côté, quelqu'un qui a une maladie d'origine cérébrale, hein, très certainement, qui se manifeste par des convulsions, des choses qui touchent au physique, au corps. Et puis de l'autre côté, il y a une pratique sportive qui touche aussi au corps. Y a-t-il un lien avéré entre la pratique sportive, musculaire, et puis une manifestation d'une maladie qui se traduit par des comportements du corps et des muscles ? Voilà, j'en sais absolument rien.
Oui, et je pense que ça doit un petit peu calmer le corps. Ça soulage, je pense, le sport au niveau de la maladie, enfin de la pathologie en tout cas. Le sport, ça a de nombreux bienfaits pour tout le monde, donc je pense que c'est bien d'en pratiquer, surtout quand on est dans une situation d'handicap ou qu'on a une pathologie. Ça permet aussi de s'échapper un petit peu.
Des sports qui sont interdits, peut-être la natation par exemple, ou l'escalade, ou alors pas seul.
Je pense que c'est tout à fait possible de faire des sports en ayant des problèmes neurologiques, parce que moi je m'entraîne à faire des sports chez moi et j'adore et je sais que je peux y arriver, mais il faut juste savoir comment faire correctement et savoir se protéger derrière.
Il y a certains sports qui sont pas compatibles avec l'épilepsie quand même. Après je pourrais pas vous dire lesquels, mais je sais qu'il y en a certains.
Spontanément, je dirais que c'est pas incompatible. Parce que je crois même qu'il m'a semblé avoir entendu un monsieur qui racontait sa vie, qui avait 80 ans, dire qu'il avait été diagnostiqué vers l'âge de 45 ans, 50 ans comme épileptique, et qu'il avait parallèlement fait une carrière de marathonien. C'est la seule notion dans ma vie que j'ai entendue.
Alors pour avoir une amie qui est épileptique, elle fait du sport, et ça lui fait du bien en fait.
voilà. Parce que ça lui permet de se dire qu'elle est aussi normale et qu'elle peut mener une vie normale. Mais c'est sûr que des fois, elle tombe. Elle sait qu'elle peut tomber à tout moment, mais en même temps, ça lui permet de s'évader aussi.
Moi, je pense que le sport, de toute façon, ne peut être que positif par rapport à toutes sortes de pathologies. Donc, après, je ne connais pas vraiment la maladie, donc je ne pourrais pas trop développer sur les bienfaits concernant vraiment l'épilepsie, mais je pense que ça peut être que positif de toute façon.
Alors, je pense qu'on peut effectivement faire de l'activité physique en étant épileptique. Après, je pense qu'il y a autant de formes d'épilepsie que d'épileptiques. Donc ça dépendra des contre-indications de chacun. Le bienfait que ça peut apporter à tout à chacun, une meilleure appréhension de son corps, les bienfaits de cardiaque, pulmonaire, tous les bienfaits du sport en général, et puis une meilleure confiance en soi.
On l'entend dans ce micro-trottoir, alors beaucoup de choses, on parle notamment de sports qui peuvent être adaptés ou non. En tout cas, on a l'impression que globalement, les gens considèrent que la pratique du sport pour une personne souffrant d'épilepsie, c'est loin d'être incompatible. Petit tour par rapport à ce que vous avez entendu dans ce micro-trottoir, je vous propose qu'on commence peut-être par notre invité au téléphone, Axel Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre ?
Eh bien, je suis étonnamment et favorablement surpris de voir que les gens interrogés étaient plutôt favorables, en tout cas avaient des représentations positives par rapport à ça, puisque la plupart du temps, hélas, les représentations négatives sont encore tenaces à l'égard de l'épilepsie, et ça entraîne énormément de freins et de barrières à la pratique chez les personnes malades. Donc là, ça semble être plutôt une bonne chose. Et en même temps, ils témoignent tous d'une certaine méconnaissance de la maladie, puisque c'est vrai que l'épilepsie est globalement peu connue dans la population générale. Et comme le disait une des personnes notamment, il y a quasiment autant de formes d'épilepsie que de personnes épileptiques, ce qui augmente, on va dire, la singularité du cas de chacun.
Et ce qui fait, on verra d'ailleurs que peut-être justement selon les formes d'épilepsie, c'est peut-être une des réponses qu'on pourra apporter, selon les formes d'épilepsie, il y a peut-être des sports qui sont plus ou moins praticables.
Alors, c'est une question que souvent les gens se posent, et en fait je ne suis pas certain que ce soit la bonne formulation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un bon sport par rapport à la bonne personne. Je crois qu'aujourd'hui on est dans un nouveau paradigme, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de véhiculer nous à travers l'ouvrage notamment. Et c'est plutôt d'inverser les choses, c'est de se dire que finalement il existe extrêmement peu de contre-indications absolues médicales à la pratique du sport, quel qu'il soit, excepté voilà la très haute altitude ou la plongée sous-marine par exemple. Mais à partir de là, en fait, quasiment tous les sports sont faisables à condition qu'on les adapte aux particularités de chacun.
On y reviendra, on pourrait presque dire que finalement c'est la maladie qui va s'adapter à la pratique plutôt que l'inverse.
Tout à fait.
On en reparlera évidemment. On continue ce tour de table. Alexandra, vous, ce que vous avez entendu dans ce micro-trottoir, qu'est-ce qui vous interpelle ? Qu'est-ce qui, au contraire, vous fait réagir favorablement ? Dites-nous.
Ben, moi, je trouve ça très positif.
Parlez bien près du micro.
Excusez-moi.
Je vous en prie.
Je trouve tout ça très positif par rapport à tout ce qu'on peut observer, l'image qui peut être renvoyée un petit peu des fois dans la société de l'épilepsie. Et on voit bien qu'en plus, il y a des témoignages qui s'en rapprochent et qui partagent en tout cas leur propre expérience pour certaines personnes en plus.
Vous êtes plutôt agréablement surprise de ce que les gens dans la rue nous ont répondu.
Oui.
Je me tourne vers Aurore qui a fait ce micro-trottoir. Aurore, tu t'attendais à ce genre de réponse ?
Alors j'ai été surprise en fait de voir qu'il y avait autant de gens pour qui c'était positif parce que j'ai imaginé un peu le contraire. Et voilà, et c'est rassurant de voir que les gens pensent que c'est possible. C'est juste à adapter, en fait, en fonction de chacun, avec ou sans épilepsie.
Il y a encore un peu cette idée, en tout cas, nous, on peut imaginer qu'il y a encore un peu cette idée de dire, on souffre d'épilepsie, il y a plein de sports qu'on n'a pas le droit de pratiquer. On fera peut-être une liste aussi de ces sports pour lesquels les gens pensent que la pratique est absolument impossible. Et vous me direz si, oui ou non, selon vous, c'est praticable ou pas praticable. Audrey, réaction sur le micro-trottoir ?
Oui, moi je suis toujours surprise de voir effectivement que les gens, ce que je disais un peu tout à l'heure en off, c'est qu'il y a à la fois des gens très avertis ou alors des gens qui n'y connaissent rien. Et on tombe quand même sur beaucoup de personnes qui ont quelque part dans leur entourage croisé l'épilepsie dans leur vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise pour nous. Et puis, par rapport à la pratique du sport, je pense qu'on a bien compris dans l'idée générale maintenant que c'est quand même recommandé pour tout le monde. Mmh. Donc, il n'y a pas de raison
voilà, que ce ne soit pas, pour les personnes épileptiques.
Mais apparaît quand même la notion du risque dans les témoignages. Et je pense que c'est...
On en reparlera, voilà. Parce que c'est vrai que globalement, si on redonnait une petite image d'épinal de l'épilepsie, c'est la crise, quoi, globalement. C'est et c'est ça qui peut donner l'impression qu'il y a des limites parfois à la pratique de sport ou de certains sports. Je pense qu'on va en reparler pendant cette émission. J'ai à mes côtés, de chaque côté, j'ai et un éducateur, Christopher. Donc j'imagine que vous, vous faites la, vous, vous accompagnez la pratique du sport. Et de l'autre côté, j'ai une prof de yoga. Donc toutes les, tous les deux, ce que vous avez entendu, dites-moi qui veut réagir en premier, peut-être, peut-être vous, Aline.
Alors justement, moi également surprise de finalement une relative mais plutôt bonne connaissance des caractéristiques de l'épilepsie et de cette question reliance pratique physique et maladie. Mmh. Et justement, en tant que témoin, juste une expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé la pratique du yoga...
On va repréciser, hein, vous souffrez d'épilepsie vous-même.
Oui, sur une crise plutôt superficielle.
D'accord.
Et quand j'ai commencé à donner des séances de yoga, j'avais une jeune étudiante qui était venue me rencontrer pour pratiquer, donc épileptique. J'étais à l'époque pas encore diagnostiquée et dans l'ignorance, la méconnaissance de la pratique, enfin de la maladie, pardon. Et du coup, malheureusement, j'ai refusé à cette jeune personne de rejoindre ce groupe parce que je savais pas comment l'accompagner et j'ai difficilement trouvé des réponses viables sur est-ce que c'était recommandable ou à l'inverse, est-ce que c'était à proscrire.
Oui. Bon, on va répondre à ça, hein, évidemment. On a bien compris que globalement, le mot ce matin, c'était de dire le sport, on peut le pratiquer parce que tout le monde peut le pratiquer. Mais on va y revenir quand même un petit peu. Christopher, vous de votre côté, sur le micro-trottoir.
Bah, agréablement surpris, surtout que j'en retiendrai une chose d'un témoignage, c'est on veut faire comme tout le monde. Mmh. C'est aussi ça, nous, qu'on prône au sein de notre masse, c'est que c'est pas parce qu'on est épileptique qu'on peut pas faire, pratiquer du sport. Donc, agréablement surpris.
MAS, maison d'accueil spécialisée, je le redis, hein, pour nos auditeurs. Et vous êtes spécialisé en plus sur l'épilepsie, donc vous connaissez bien le sujet. Je vous propose qu'on développe un petit peu toutes ces idées dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter un premier titre musical qui avait été choisi par Axel Lyon. Axel Lyon, vous pouvez nous dire un peu le morceau que vous avez choisi? Je crois que c'est Orage d'Ava, c'est ça?
Exactement. Donc, Ava est une artiste française qui s'avère être l'ambassadrice de l'association Épilepsie France, puisqu'elle est elle-même épileptique, et une chanteuse de talent, et une sportive, une sonde également. Donc, ça me semblait faire sens de passer cette chanson qui a été multiplement récompensée par ailleurs. Très joli clip qui l'accompagne.
Alors, la ligne n'est pas très très bonne. Je vais juste redire ce que vous venez de nous dire, hein, mais que Ava souffre d'épilepsie. Elle chante, elle est sportive, elle a une jolie voix. Et on va l'écouter maintenant. Et on va essayer de vous recontacter pour retrouver une meilleure connexion avec vous, Axel Lyon. On écoute Orage d'Ava sur RCN.
Dans un soupir, l'orage gagne tous mes souvenirs. Je voudrais tant te retenir. La nuit s'étire sur moi. Ramène-moi, si je ramène-moi, quand je ramène-moi. Quand je quitte le temps, ramène-moi, si je ramène-moi. Quand je ramène-moi, quand je glisse, si je m'échappe. Thank you. être ce que tu es, pour moi ce que je suis, pour toi comment tu ris, pour moi comment je vis, ce que tu es, pour moi ce que je suis, pour toi comment je ris, pour toi ici.
RCN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie handicap Nord-Est.
Ensemble jusqu'à 11h pour parler ce matin de sport et d'épilepsie. Et une question que j'ai envie de poser à l'ensemble de nos invités autour de cette table. Est-ce que quand on souffre d'épilepsie, on peut faire du sport ? Ah, je mets bien les deux pieds dans le plat, évidemment. On a déjà entendu quelques éléments de réponse, mais j'aimerais bien avoir vos réponses un peu plus précises là-dessus. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit faire du sport quand on souffre d'épilepsie ? Qui veut répondre en premier ? Axel Lyon, peut-être ?
Eh bien, si vous voulez, vous Allez. M'entendez mieux ?
Oui, on vous entend mieux, c'est bien. La ligne est bien rétablie. On vous écoute, dites-nous.
Alors, évidemment, on peut faire du sport, et puis alors, on doit, bon, chacun fait comme il veut, hein, mais ce qui est avéré, c'est qu'il y a des bénéfices aujourd'hui importants qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique et qui permettent d'affirmer aujourd'hui que sur de nombreuses épilepsies, une activité physique régulière permet de réduire, par exemple, la fréquence des crises, d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer l'estime de soi, etc. Donc il y a un vrai enjeu, il y a un vrai intérêt. Et puis, en fait, pour faire de l'activité physique, il n'y a pas que le sport. Si certains voilà, ont des difficultés ou des a priori, mais l'activité physique, ça peut être aussi les activités domestiques, le ménage, le bricolage, etc. Les activités de déplacement, utiliser le vélo, la trottinette, les rollers, marcher à pied... Puis parfois même le travail, hein, il existe des différents emplois qui peuvent être assez physiques. Et puis ensuite, il y a évidemment différentes intensités d'activité physique. Hein. Alors pour certaines épilepsies, les efforts intenses sont dérecommandés, ce qui peuvent déclencher des crises. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et puis des activités modérées peuvent être très intéressantes. Et ce sont d'ailleurs le type d'intensité qui sont recommandées par l'OMS, hein, faire 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour. C'est valable pour tout le monde.
Oui, j'allais dire, c'est valable pour y compris les personnes qui ne souffrent pas d'épilepsie.
Tout à fait.
Je continue mon tour de table sur cette question. Sport et épilepsie, doit-on en faire ? Christopher, vous êtes éducateur sportif ?
Non, éducateur simplement.
Mais vous pratiquez le sport avec les...
Oui, on pratique d'ailleurs le kayak.
Ouais.
Donc, c'est très rare qu'on a des crises pendant la séance. Enfin, ça va être avant parce que l'émotion va être forte. Et du coup, le résident va être content donc, d'y aller. Il va avoir une crise. Pendant, généralement, non, parce qu'ils sont concentrés à pagayer. Enfin, voilà, il n'y a pas de crise du tout. Et après, peut-être avec la fatigue, mais après, nous, il suffit qu'on observe et puis on leur dit, voilà, pagayer peut-être un peu moins ou des choses comme ça. Mais finalement, on n'en a pas énormément pendant la séance.
Si j'entends bien, vous, à la maison d'accueil spécialisée, vous, en tout cas, vous encouragez aussi la pratique sportive, en tout cas.
Oui, oui. Surtout que, pour les résidents, c'est important déjà d'avoir une activité physique. Parce qu'il n'y a pas que non plus l'épilepsie chez nous, on a aussi des troubles moteurs, donc ça peut aussi aider. Aider, tout simplement. Désolé, première fois là.
Non, mais on vous en prie, il n'y a pas de souci.
C'est surtout une notion, comment dire, de faire comme tout le monde, parce qu'ils sont inscrits dans un club de kayak, et chaque année, on a une journée aussi où on est au kayak avec eux, où tout le monde est mélangé, et on fait une grande journée, où il y a un repas, où on fait une petite course. Et nos résidents sont super contents d'y aller.
Oui, j'entends ce que vous dites, le faire comme tout le monde. C'est une vraie question. Ça fait maintenant quelques émissions qu'on fait où on traite de l'épilepsie ici. Et cette importance qu'il y a de pouvoir vivre tout à fait normalement sa vie quand on souffre d'épilepsie, c'est ce que vous dites aussi là sur la pratique du sport.
Tout à fait.
Je continue mon tour du coup de table sur cette question. Alexandra, vous en pensez quoi, vous ? On doit faire du sport quand on souffre d'épilepsie ? Vous êtes ergothérapeute, on le reprécise.
Oui. Ben, moi, je rejoins du coup mon collègue Christopher, sachant que, comme on a dit, nous, on est spécialisé donc, dans l'épilepsie qui est pharmacorésistante aussi. Donc, il y a d'autres types de handicaps.
On va redire ce que ça veut dire, pharmacorésistante.
Pharmacorésistante, donc les traitements ne permettent pas, en tout cas, de stopper l'épilepsie, pour faire très simple. Et donc, les crises continuent encore à l'heure actuelle à agir. Et donc, il y a certaines personnes aussi qui vont avoir tout un aspect de prévention, donc qui vont être un petit peu plus des fois au fauteuil pour éviter justement de se faire mal lors de chutes ou autres. Donc, l'activité physique va être aussi d'autant plus importante pour elles aussi, pour maintenir justement que ce soit les capacités motrices, mais peut-être aussi cognitives qui peuvent être liées des fois au handicap, et tout l'aspect social et la valorisation. Des fois, ça peut être juste du déplacement aussi au sein de l'établissement. Et c'est vrai que spontanément, que ce soit pour les professionnels ou même entre les résidents, ils se valorisent aussi, ils sont contents de voir que l'autre marche, ils se font des compliments entre eux. Donc, que ce soit du simple déplacement, comme on a parlé, de la vie quotidienne ou de toute autre activité, excusez-moi, telle que le canoë kayak, la piscine ou autres qui sont accompagnés un petit peu plus de manière rapprochée, en tout cas du un pour un avec les différents professionnels. On valorise vraiment sous différents aspects cette activité physique et finalement une réappropriation aussi de son corps au travers de cette activité.
Aline, vous êtes en plus prof de yoga, donc vous seriez mal placée pour dire non, pas de sport quand on est épileptique.
Je crois que c'est bien connu aujourd'hui que épileptique, pas épileptique, la pratique physique permet notamment de lutter sur une vraie problématique, qui est la sédentarité. Pour les personnes épileptiques spécifiquement, pour ce qui est de la pratique de yoga, peut-être différencier certaines formes de yoga qui vont être effectivement très intenses, très axées sur la dimension physique, plutôt exigeante. Mais vous avez aussi d'autres formes de yoga, hatha yoga, yin yoga, restorative yoga, qui vont être des approches en fait très accessibles parce que très douces, très posées, très sereines. Et dans ces dimensions-là, il y a également l'intérêt qu'il n'y a pas dans la pratique du yoga d'esprit de compétitivité, de performance. C'est plutôt de se porter à l'écoute de soi.
On en reparlera, vous m'en parliez tout à l'heure, hors antenne, de me dire qu'effectivement, se mettre à l'écoute pour pouvoir peut-être mieux sentir arriver une crise, par exemple, ça, c'est le yoga le permet notamment. Dites-en un mot, allez-y, je vous en prie.
Oui. En fait, dans la pratique du yoga, vous avez effectivement une dimension d'activité physique, mais vous avez aussi une dimension d'observation de soi. Le regard sur soi, la connaissance de soi, par ce regard, petit à petit, qui se développe, avec de la bienveillance, du temps, de la douceur, va permettre effectivement d'avoir un rapport beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin à nos ressentis, à la perception du corps et à la connexion corps-esprit, qui va peut-être effectivement permettre au fil du temps de développer une finesse dans cette perception de soi et donc de peut-être mieux connaître, mieux identifier les signes avant-coureurs d'un début de crise, par exemple.
Axel Lyon, vous nous disiez tout à l'heure que globalement, c'est plus à la personne qui souffre d'épilepsie de s'adapter par rapport à la pratique sportive, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'adapter sa maladie et la façon dont on la gère à la pratique sportive. Qu'est-ce qui explique ce changement de dogme aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement d'une part des publications scientifiques, et notamment en sciences de la vie, qui permettent d'affirmer la nette supériorité des bénéfices sur les risques potentiellement encourus par les pratiquants épileptiques, qui permet du coup d'étayer, d'avérer que c'est positif et du coup qu'il faut encourager. Il y a notamment aussi la Ligue internationale contre l'épilepsie qui a publié en 2016 un consensus scientifique pour promouvoir et recommander l'activité physique. Et puis cette même année, en France aussi, il y a un décret qui est sorti en décembre 2016 qui permet aux médecins traitants de prescrire de l'activité physique adaptée aux personnes atteintes d'affections de longue durée, dont font partie les épilepsies sévères.
Qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs cette pratique du sport adapté ? C'est quoi, par exemple ? Vous avez des exemples à nous donner ?
Bien sûr. Alors, l'activité physique adaptée se distingue du sport. C'est vraiment une pratique qui est encadrés par des professionnels de l'activité physique adaptée qui ont une formation. Généralement, ce sont des enseignants en APA qui ont fait un cursus.
En APA, vous voulez bien nous expliquer ce qu'est l'APA ? On va essayer de pour que les gens comprennent bien. Hein.
Bien sûr. APA, c'est donc activité physique adaptée.
Ah oui, pardon, c'est bien ça, on le reprécise. Non mais voilà, pour bien...
Vous avez raison. Hein. Et donc, en fait, il y a un cursus aujourd'hui à la fac de sport, en STAPS, hein, sciences et techniques des activités physiques et sportives, qui permet de former des professionnels en activité physique adaptée pour accompagner des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques, et qui vont avoir des contenus de formation justement sur les spécificités des pathologies, sur comment les aider à développer des capacités pour être plus autonomes en adaptant des activités sportives. Ce sont les activités sportives, les outils, mais qu'on va adapter aux besoins de ces personnes.
Alors, vous nous dites qu'on adapte, mais est-ce que ça veut dire aussi, par conséquent, qu'il y a des sports qu'on ne peut pas pratiquer ?
Eh bien, l'idée, ce serait essayer de sortir de cette vision-là, puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que tout est faisable, à condition que, voilà, on respecte certaines contraintes, certaines limites. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cela, par exemple, mais le saut en parachute, évidemment, tout seul, pour une personne qui a une épilepsie non contrôlée, c'est pas envisageable, c'est dangereux, etc. Mais alors, le saut, par exemple, en biplace avec un moniteur, voilà, là il y a beaucoup moins de problèmes. Et pour aller plus loin, pour ceux qui ont plus de problèmes, aujourd'hui on peut faire des simulateurs de chute libre dans des cônes avec des soufflants à air qui permettent d'avoir globalement les mêmes sensations avec un risque beaucoup plus
limité.
Il y a des exemples qui sont encore plus pragmatiques, plus simples, mais par exemple l'escalade a souvent véhiculé des craintes très importantes dans la population générale pour les personnes épileptiques, parce qu'on se dit « Ah, on grimpe contre une paroi, on peut chuter en cas de crise, se blesser, etc. » Mais finalement, quand on connaît un petit peu l'activité, on sait qu'on peut faire grimper les gens en moulinette, c'est-à-dire que la personne elle est assurée, elle est tenue par une corde tout du long, on peut avoir des équipements de protection spécifiques, des casques, etc. Et finalement, c'est une des activités les plus sécurisées qu'on pourrait proposer à ce public, finalement. Donc en fait, il faut vraiment se remettre en question sur les pratiques en se disant comment on peut faire pour les adapter, puisqu'il y a très peu de choses qui ne sont pas faisables, en fait.
Par exemple, le sport mécanique, le sport automobile, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer aussi, parce que globalement, si je dis pas de bêtises, quand on souffre d'épilepsie, on conduit pas ou on peut pas conduire. Je dis une bêtise ou pas ?
C'est un peu une bêtise, quand même.
Voilà. Mais c'est bien, allons-y, hein. Je préfère qu'on dise des bêtises et qu'on y réponde. Donc c'est une bêtise.
Non, non. Alors pour le coup, le permis de conduite, par exemple, est très contrôlé. Hein. Aujourd'hui, il y a des règles très, très strictes en cas d'épilepsie. Il faut ne pas avoir eu de crise depuis un certain temps pour avoir le droit de passer le permis ou de conduire. Mais une épilepsie stabilisée, qui n'est pas pharmaco-résistante, etc., la personne peut conduire sans problème. Et donc, par extension, les sports automobiles peuvent aussi être accessibles.
C'est ça. Donc, finalement, à vous entendre, il y a pas ou très peu de sports qui peuvent pas... Alors, évidemment, il faut les adapter, et c'est peut-être là que les éducateurs et ergothérapeutes peuvent nous expliquer aussi comment on adapte. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu votre métier aussi. Comment on adapte les différentes pratiques sportives. Et puis, juste une question aussi rapidement, parce que depuis qu'on fait cette émission, j'entends souvent parler de la boxe. La boxe, qu'est-ce qu'on fait de ce sport ? Est-ce que, parce que c'est difficile d'adapter, de faire semblant de se donner des coups, enfin quand on fait de la boxe, on se donne des coups. Est-ce qu'on peut pratiquer la boxe quand on souffre d'épilepsie ? Qui pour répondre à cette question-là ? Je vous sens hésitant, Alexandra, Christopher, non ?
On avait l'exemple de Yanis, hein,
qui pratiquait la boxe,
qui nous avait dit, puisqu'on m'a déconseillé de le faire, j'y suis allée.
Et il n'était pas le seul, hein, qui était témoin dans notre première émission, qui en faisait aussi.
Mais je pense qu'on revient à cette histoire d'adaptation, tout dépend dans quel contexte il le fait, s'il fait de la compétition ou pas, est-ce qu'il est accompagné ou pas, quelles sont ses protections, combien de temps il en fait, avec quelle intensité. On revient plutôt sur la question de l'adaptation, en fait, autour de, c'est pas un sport, mais plutôt dans quel contexte on le fait, combien de temps, avec quelle intensité, avec quel accompagnement, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. On sait aussi que parfois la crise, on en parlait tout à l'heure, survient soit juste avant, parce qu'on est content d'y aller, qu'on est enthousiaste, etc., soit après, avec l'effet peut-être de la fatigue, aussi du plaisir que ça a généré, etc. Donc c'est peut-être de prévoir... particulièrement l'accompagnement avant et après, mais pas tellement pendant. Ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque situation.
Et cette notion peut-être d'apprendre à se connaître aussi, mm-hmm. pour sentir les choses arriver. Comment on adapte, Alexandra, les pratiques sportives en fonction des... Parce que je le redis juste, pardon, mais pour les auditeurs qui... On parle d'épilepsie, souvent on a cette idée, cette image, je vais dire d'épinal qui n'est pas le bon terme, mais de la crise où d'un seul coup on se met à convulser. Mais les épilepsies, on l'a entendu, sont aussi nombreuses quasiment que les personnes qui souffrent d'épilepsie. Donc comment on s'adapte ?
Exactement. Ça peut être de différentes façons. Donc déjà, connaître l'épilepsie, les facteurs déclenchants, du coup, pour chaque personne aussi, puisque c'est un peu comme ça qu'on va pouvoir adapter finalement chaque activité et les proposer certaines à certains résidents ou à certaines personnes et pas forcément à d'autres, ou en tout cas de faire de façon différente, pas avec les mêmes adaptations. On va revoir tout ce qui est de l'ordre finalement, comme on a dit, un petit peu de l'environnement. Ça peut être tout ce qui est aussi un petit peu réduire finalement la taille de certains objectifs ou le revêtement du sol, ou alors de pouvoir revoir tout ce qui est de l'utilisation du matériel qui peut être utilisé aussi, que ça soit au niveau du poids pour que ça soit peut-être moins fatigant et du coup agir aussi sur cette fatigabilité qui peut être plus ou moins présente avec certaines personnes, d'agir sur la durée d'activité pour rejoindre la fatigabilité aussi, revoir son installation, toujours qu'on soit quand même dans quelque chose de confortable et sécuritaire pour elle à ce niveau-là. Et puis, nous, du coup, au sein même, c'est d'avoir cet accompagnement effectivement professionnel toujours lors des activités et peut-être de pouvoir adapter certaines règles, certaines façons de faire, en tout cas au sein du sport, pour pouvoir les adapter au plus simple, en tout cas pour les personnes qui vont la pratiquer par la suite.
Ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, on peut adapter dans des centres, par exemple, comme c'est le cas à la maison d'accueil spécialisée. Mais si je souffre d'épilepsie, que je vais aller dans un club classique, je peux le faire, je peux être accompagné. Comment ça se passe ? Parce qu'on entend qu'il y a ce besoin quand même d'adapter des choses. Il y a aussi peut-être le besoin de former les encadrants aussi. Comment on peut ? Ça se fait ? Il y a des choses qui existent en ce sens ?
Il me semblait, alors j'avais vu un petit peu plus pour les maladies neuroévolutives aussi, alors je ne sais pas si ça s'étend bien aussi par rapport à l'ordonnance justement pour l'épilepsie à ce niveau-là qui est réalisée par le médecin. Et il y a des centres aussi qui existent justement avec une sensibilisation, des moniteurs aussi sur place et donc qui sont renseignés normalement sur le site. Je n'ai plus le bon terme, donc je préfère pas dire de bêtises.
Ça s'appelle le dispositif PrescriMove, qui est en fait un dispositif qui a été développé notamment là sur le Grand Est. L'ARS participe à ce déploiement de l'activité physique adaptée auprès des maladies chroniques notamment et certains types de handicaps, où en fait le médecin traitant va prescrire de l'activité physique adaptée qui sera, je vais le dire comme ça, remboursée par la Sécu pour la personne concernée. Et elle pourra du coup se tourner vers des établissements spécialisés qui ont des profs d'activité physique adaptée, les fameux professeurs APA, pour quand c'est nécessaire, qui vont du coup savoir, on va dire qu'ils sont dans la vie civile, ils ont leur salle de sport et on vient comme dans n'importe quel club sportif.
Oui, c'est ça. Ordinaire. Et on peut pratiquer aussi avec tout le monde son sport, mais avec simplement un accompagnement qui a été un petit peu travaillé en amont.
Donc ça, c'est une aide notamment du département, enfin de la région, région Grand Est, pour les personnes qui ont notamment des maladies chroniques. En ALD, dont parlait Axel Lyon tout à l'heure.
Axel Lyon, vous nous disiez tout à l'heure que les études scientifiques avaient tendance à prouver que globalement, on réduit les crises d'épilepsie quand on pratique le sport. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, oui, un petit peu. Effectivement, il y a plusieurs bénéfices qui ont été démontrés. Ce qui semble important quand même de dire aussi, c'est que les études sont globalement beaucoup moins nombreuses que dans d'autres pathologies, ce qui explique aussi la lenteur du développement de l'activité physique adaptée dans l'épilepsie par rapport à d'autres pathologies. C'est-à-dire que je prends l'exemple du cancer, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des méta-analyses avec des centaines d'études qui permettent de montrer que l'activité physique permet de réduire le taux de rechute de cancer du sein, par exemple, et qui est du coup un levier promotionnel du sport pendant et après les traitements très important. Là, dans le cadre de l'épilepsie, vu que la population est peut-être un peu moindre d'un point de vue épidémiologique, on a aussi un peu moins d'études qui ont été faites et du coup on a une force de représentation des résultats qui est un peu moindre. Néanmoins, voilà, on sait aujourd'hui que l'activité physique permet justement de réduire la fréquence des crises sur certaines épilepsies par ses effets neuroprotecteurs. Et ça apporte également des bénéfices sur d'autres dimensions que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure, mais sur la qualité de vie, la participation sociale, l'estime de soi, par exemple.
Oui, le lien social, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. On le voit hein, depuis qu'on travaille sur cette émission, que globalement, quand on souffre d'épilepsie, en tout cas dans certaines formes d'épilepsie, on est un peu écarté du travail, on est écarté d'un certain nombre de choses. Donc le sport, c'est aussi un moyen de revenir dans le lien social.
C'est presque l'enjeu principal, j'ai envie de dire, parce que ce qui caractérise quand même l'épilepsie, c'est le processus de stigmatisation et l'exclusion sociale. L'épilepsie, c'est l'exemple dans de nombreux cas du handicap invisible et qui discrédite la personne uniquement au moment où ses symptômes se révèlent en public, quoi. Donc, il faut imaginer des individus qui vivent un peu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui du coup des fois et souvent hésitent à dire qu'ils sont épileptiques avant d'aller dans une activité par peur justement d'être rejetés. Et donc il y a tout un enjeu justement à déstigmatiser l'épilepsie. Et les activités sportives sont des activités culturelles à part entière qui permettraient d'y contribuer.
Et d'ailleurs, ce que vous dites est peut être un petit peu mis en exergue par le fait qu'on connaît très peu de grands sportifs qui déclarent souffrir d'épilepsie. Est-ce que vous en connaissez vous-même peut-être Alors moi, j'en ai deux ou trois à vous proposer. Axel Lyon, vous connaissez des sportifs qui ont fait carrière aujourd'hui et qui souffrent d'épilepsie, qui le disent par exemple?
Bien sûr. Alors, je peux parler de quelqu'un que je connais un peu maintenant, qui est Marion Clignet, qui voilà. Était une multiple championne olympique et mondiale de cyclisme, avec une épilepsie active pendant sa carrière, jusqu'à même aujourd'hui. Et elle est encore aujourd'hui très investie, justement, dans la lutte contre l'épilepsie par le sport. Elle signe d'ailleurs la préface de notre ouvrage.
Et c'est peut-être important d'avoir des ambassadeurs qui déclarent avoir souffert d'épilepsie au moment où ils pratiquaient leur activité sportive, plus qu'une activité sportive, hein. C'était même un métier pour Marion Clignet dont vous parlez, hein. Vous le disiez, elle est multi-championne, elle a été 5 fois championne du monde sur piste, 5 fois championne de France en duathlon, championne des États-Unis, enfin bref, elle a un palmarès juste ahurissant, donc on peut devenir champion en souffrant de d'épilepsie. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup justement que les sportifs le déclarent un peu plus, peut-être pour ouvrir la voie aussi, d'abord aux personnes qui souffrent d'épilepsie, de se dire je peux pratiquer ce sport, et puis aussi aux personnes qui ne connaissent pas ou ne souffrent pas d'épilepsie, pour leur dire, vous voyez, finalement, il n'y a rien de... ça se fait, quoi.
Oui, moi je partage votre avis, hein. Il y a un enjeu de visibilité aujourd'hui, et je pense qu'on est dans une bonne dynamique en ce moment avec... Voilà, tout ce que peut faire Épilepsie France, par exemple, pour promouvoir justement la lutte contre l'épilepsie, favoriser l'inclusion. Et effectivement, toute scène médiatique serait favorable pour agir dans ce sens-là.
On continue d'en parler dans quelques instants. Je vous propose qu'on écoute une chanson choisie, un titre choisi par Aurore, cette fois-ci. Aurore, tu nous dis ce qu'on écoute?
Oui, alors on écoute une chanson de Christina Rossmini qui s'appelle « La Féa ». Et c'est une découverte francophone, un magazine sur la chanson que j'aime beaucoup. Et cette chanson, elle invite au voyage parce que c'est un air traditionnel mexicain qui est chanté en français, en espagnol et en zapothèque.
Et ben on l'écoute et dans un instant, on parlera plus particulièrement de la pratique du yoga. Bienvenue sur RCN, vous êtes dans Épices et Tout, on est là encore jusqu'à 11h.
Muchachita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negra santa, diles que yo soy tu negra santa. Yo soy la fea que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy la fea que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Paginica ven a Spadoawini, paginica ve que pechinillo, jindido dangana. Pati feuna, jindido dangana, pati feuna, limananu da feungara naji, ru da jagana neli nanga ti feo garana ji rugi dubila jido ne za jagana neli m'abandonne. Dis-toi bien que la fleur peut éclore. Dis-toi bien que le feu brûle encore. Je suis la fée, fée folle et affamée, qui jour et nuit chantera et ne vit que pour aimer. Je suis la fée, fée folle et affamée, qui jour et nuit chantera et ne vit que pour aimer. Je suis la fée, la fée. Que te quiere de verdad, fea, la fea que sabe amar con todo su corazón. Que te quiere de verdad, yo soy la fea que sabe amar con todo su corazón. Que te quiere de verdad, je suis la fea. Fée affolée, affamée, qui jour et nuit chantera et ne vit que pour aimer.
Heures, 11h sur RCN, et puis c'est tout.
Ce matin, on parle de la pratique du sport pour les personnes souffrant d'une forme d'épilepsie, d'une des différentes formes d'épilepsie. J'ai le plaisir d'être accompagné pour ce faire d'Aurore et Audrey de l'équipe Relais Handicap Rare. À mes côtés également, Alexandra, ergothérapeute à la maison d'accueil spécialisée. Vous êtes à quel endroit déjà ?
À Deux-Martin-les-Toul.
À Deux-Martin-les-Toul. Et notamment, vous avez des spécialités sur l'épilepsie à la maison d'accueil spécialisée de Deux-Martin-les-Toul. C'est bien ça.
Oui.
À mes côtés également, Christopher, vous êtes éducateur dans cette fameuse maison d'accueil spécialisée qu'on appelle aussi la MAS. Et puis également avec nous, nous avons Axel Lyon qui est doctorant ingénieur de recherche à l'Institut LATEP. Et puis, Aline, vous êtes prof de yoga et il y a 4 ans, vous découvrez que vous souffrez d'épilepsie. Vous allez nous raconter votre parcours. Mais avant, vous m'avez demandé qu'on revienne sur cette question de pouvoir dire oui, je suis un grand sportif et oui, je souffre d'épilepsie. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
Alors, une autre anecdote ici, j'ai pour ma part, effectivement, jamais eu de crise d'épilepsie durant une pratique de yoga. Par contre, à l'inverse, en tant qu'enseignante de yoga, j'ai eu une crise du fait, je dirais, de la dimension émotionnelle, d'une forte dimension émotionnelle de stress que je me suis mise, parce que c'était une première séance donnée en visio. Et donc, crise et difficulté à parler. À formuler des phrases. Donc pendant quelques instants, j'ai profité d'un petit peu la lenteur, d'amener une lenteur et de placer juste un mot, étirement, respiration profonde. Et puis voilà, au bout d'une ou deux minutes, la crise passe. Et en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, je me suis un petit peu rassurée en me disant que les gens, peut-être, ont pensé qu'il y avait juste un problème de connexion, de réseau. Et donc, je prends conscience là que finalement, il y a cette idée effectivement d'avoir difficulté à révéler autour de soi cette maladie. Et c'est pourquoi je m'en rends compte aussi du parcours et du fait que je suis contente aujourd'hui à l'inverse de le reconnaître, de le dire et de pouvoir peut-être transmettre quelque chose qui aujourd'hui invite à la pratique d'une activité physique
ouais.
Voire d'une pratique de yoga aux personnes qui sont épileptiques.
Bon, donc il y a 4 ans, donc, vous découvrez que vous souffrez d'épilepsie. Comment vous découvrez cette maladie ?
Alors en fait, elle fait suite à un premier accident, un AVC, suite séquelle en fait, de la survenue d'un AVC. Et au début, il y a eu quelques crises assez espacées et en fait... donc c'est des crises superficielles, il n'y a pas de convulsions, il n'y a pas de perte de contact par exemple. Et certaines ont pu faire penser par exemple à simplement un malaise vagal.
D'accord.
Donc au début je me disais bon, ok,
tout va bien, malaise vagal, une, deux crises, trois crises, et puis les crises se multipliant dans le temps. Au bout d'un moment, on m'a dit, bon bah aujourd'hui, l'arbre ne peut pas cacher la forêt, vous êtes effectivement épileptique. Donc ça a été une surprise, je crois que je repoussais, je me disais, c'est pas ça, hein. ça m'a rassurée, j'étais un petit peu dans une forme de déni. Et puis voilà, le jour où ça tombe, je reste néanmoins dans l'acceptation et la relativité, puisque je réalise aujourd'hui qu'effectivement, il y a différentes formes d'épilepsie et que ça peut aller très très loin dans l'impact sur la vie, dans le handicap, dans des limitations de pratique au quotidien, des grands risques. Hein. Vous parliez tout à l'heure d'une mort subite possible chez les épileptiques. Donc voilà, je suis contente et finalement j'accepte assez aisément aujourd'hui cette maladie.
Vous le découvrez à ce moment-là, vous pratiquez déjà le yoga, vous êtes même déjà prof de yoga.
Oui, depuis plusieurs années.
Et est-ce que vous vous dites à un moment donné, mince, c'est peut-être des choses que je vais devoir arrêter. Est-ce que je vais devoir arrêter cette pratique, par exemple, du yoga ou d'autres activités physiques?
Alors sur le yoga, non, j'ai absolument aucun doute. À part peut-être, par exemple, il y a une pratique qu'on appelle le hot yoga, où on va pratiquer le yoga dans une salle chauffée à peu près entre 37 et 42 degrés. Là, je sais que voilà, c'est un peu trop intense et je ne m'y risquerai pas, comme j'évite aussi, par exemple, un peu la pratique de posture sur la tête.
D'accord.
Qui peut amener une compression un petit peu trop dense à l'espace du cérébral, mais pour le reste, j'ai aucun doute, à l'inverse, du bienfait, des bénéfices et de ce que ça m'apporte, et qui est même une très bonne chose pour mieux vivre la maladie.
Vous me disiez d'ailleurs que le yoga, ça vous permettait aussi d'apprendre à mieux vous connaître, peut-être, et de mieux pouvoir anticiper. Si on souffre d'épilepsie, une crise par exemple, vous pouvez me dire un mot là-dessus?
Ben, en fait, on parlait de sport et d'épilepsie. Le yoga est une pratique qu'on associe au sport, mais qui est plus large que l'activité physique. Il y a bien évidemment toute cette dimension qui est le premier volet que les gens connaissent, qui est vraiment la pratique de posture, la pratique physique à l'espace du corps physique, de posture très spécifique. Mais vous avez des dimensions qui vont au-delà, avec une dimension d'introspection qui est très importante dans la pratique de yoga. Il y a dans l'idée de cette pratique cette intention, en fait, de quelque part se couper du monde extérieur sur lequel on est tourné tout au fil de la journée, pour revenir à soi, pour se tourner vers des mondes intérieurs, des paysages intérieurs. Et dans ce cheminement, il y a effectivement une grande écoute portée à la découverte de comment on fonctionne à l'espace du corps physique, du corps émotionnel et également du corps mental. Donc il y a ça, au fil du temps, ça permet effectivement un raffinement de cette relation corps esprit et la découverte d'une plus fine perception de soi-même, des sensations, des ressentis qui peuvent effectivement rendre plus fin la perception des débuts de crise, des symptômes, des signes avant-coureurs d'un début de crise, et peut-être même de calmer un petit peu avant.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les sports, ça, Axel Lyon? Ce travail sur soi-même, finalement, oui.
Alors, d'une certaine manière, oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que le yoga et plus largement les pratiques méditatives, en plus des pratiques physiques ou à côté, ont montré des bénéfices similaires à ceux que j'ai annoncés tout à l'heure. C'est-à-dire que ce type de pratique permettrait aussi d'avoir un impact sur les crises, sur la qualité de vie, la fatigue, etc. Donc elles sont également très importantes. Après, je pense que le message, s'il y avait un message à véhiculer qui est important, c'est de surtout que les personnes trouvent quelque chose qui leur plaît. Parce que en fait, les bénéfices viennent avec la régularité et se maintiennent avec la régularité. Donc plus qu'une pratique qui serait plus intéressante que les autres, ce qu'il faut trouver, c'est sa pratique, en fait, et qui permette d'avoir une activité physique peut-être pas quotidienne, mais voilà, qu'elle soit la plus régulière possible pour que les bénéfices s'installent et durent.
Dans ce que j'entends de ce que vous dites, on peut appliquer vraiment ce conseil à tout le monde, en fait. Y compris les gens qui ne souffrent pas d'épilepsie.
Évidemment, Évidemment, mais ça a été dit un moment dans l'émission, mais c'est vrai que la sédentarité est un vrai problème de santé publique aujourd'hui. Elle développe de nombreuses maladies chroniques chez tout le monde, hein, l'obésité, le diabète, les cancers. Après, il s'avère qu'il y a des bénéfices plus spécifiques sur l'épilepsie et que les personnes qui souffrent d'épilepsie rencontrent souvent des barrières importantes à leur propre mise en mouvement. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu peut-être plus particulier, mais évidemment tout ce dont on est en train de parler est valable pour tout le monde. Hein. Mmh.
Mais bien redire, hein, encore une fois, que la pratique du sport, non seulement elle n'est pas proscrite, mais elle est plutôt prescrite pour les personnes qui souffrent d'une des nombreuses formes d'épilepsie, qu'elles peuvent avoir un bienfait. On a parlé des bienfaits globalement, j'allais dire presque physiques, mais je lisais aussi quelque part que ça pouvait aider à gérer les angoisses aussi, le sport, et que c'était important pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Vous voulez nous en dire un mot, Aline, peut-être, de ça ?
Oui, par exemple, la pratique de yoga permet d'agir sur différents facteurs favorisant des départs de crise. Donc, la pratique de yoga va permettre, par exemple, de réduire le stress et l'anxiété, sachant que vous avez au niveau du stress et de l'anxiété et l'épilepsie une dimension bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'à la fois, stress et angoisse vont être facteurs connus dans le déclenchement de crise, et l'épilepsie peut générer, à l'opposé, anxiété et dépression. Donc un yoga en fait qui va mettre l'accent sur la relaxation va permettre de réduire cet état de stress au travers de différentes techniques. Le travail de méditation, le travail sur la pleine conscience, la pratique d'exercices respiratoires contrôlés vont permettre de réguler l'activité cérébrale, calmer le système nerveux global et favoriser donc une moindre probabilité de crise. Vous avez aussi un travail qui va amener de meilleurs résultats par rapport à la qualité de sommeil, qui là aussi un facteur reconnu. Habitude de sommeil régulière, sommeil insuffisant peuvent déclencher plus facilement des crises. Et enfin, d'éviter le surmenage. Si on est sur ce type de pratique très douce, on va éviter de se mettre une activité physique qui va être trop intensive, trop excessive, et là encore, potentiellement faciliter un départ de crise.
Donc, pratiquer le sport, c'est important. Vive le sport, comme disaient certains journalistes sportifs. N'oubliez pas également que le sport peut être adapté. Et ça, c'est important de le redire. Je vous remercie toutes et tous pour d'être venus dans cette émission nous en parler. Merci à vous, Alexandra. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute à la maison de l'accueil spécialisée de Dommartin-les-Toul. Je rappelle que j'avais également Christopher à mes côtés. Vous y êtes éducateur. Merci, Aline, d'être venue nous parler de votre parcours et de votre pratique du yoga. Merci à vous, Axel Lyon, aussi d'avoir participé à cette émission. Axel Lyon, je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle Épilepsie et activité physique, une pratique adaptée pour tous. C'est aux éditions Autrement, c'est bien ça?
Tout à fait, merci.
Et merci à vous. Là, on se retrouve, nous, dans un mois, Audrey, oui. Aurore. Le temps passe tellement vite. Il faut déjà qu'on mette un terme à cette émission. Et dans un mois, nous parlerons de quoi?
Eh ben, nous parlerons de l'épilepsie et du travail.
Et si vous voulez témoigner, on va mettre pour vous en place une adresse mail. Vous pourrez le faire. Donc, on a dit à témoin@rcn-radio.org, témoin au pluriel. Vous pourrez vous prendre contact directement.
Oui, alors les témoignages, là, pour l'émission de la prochaine, on a déjà nos témoins. Mais on peut du coup annoncer celle d'après qui sera sur la question des aidants. Et donc là, on recherche des témoins aidants, qu'ils soient parents, proches, frères, sœurs, qui auraient envie de témoigner sur leur rôle auprès d'une personne épileptique.
Très
donc là,
important.
Ils pourront s'adresser du coup à donc témoin au pluriel, on a dit.
témoin@rcn-radio.org, voilà. Témoin au pluriel. Merci à toutes et tous. Nous, on se retrouve dans un mois pour parler travail et épilepsie. On va se quitter en musique avec un titre que Alexandra et Christopher m'ont dit. Ah oui, ça c'est super. On écoute quoi?
Muse.
Allez, on se quitte là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes sur la scène, vous avez bien fait. C'était Épice et tout.
transmissions will resume. I try to push drugs to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another